à quel point c'est important pour Jésus de savoir qu'est-ce qu'il pensait de lui. Parce que la réponse à cette question-là a des répercussions énormes dans notre vie. Et entre autres, à la question « Qui êtes-vous? » Et vous, qui êtes-vous? Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que justement, Jésus sait à quel point l'éternité de n'importe qui sur la terre, peu importe qui on est, peu importe nos origines ethniques ou peu importe le reste où on se situe dans la vie, notre éternité est liée à ces questions. Ce qu'il pense de Jésus et l'impact que cela a sur nous. Jésus savait aussi l'importance que cela aurait sur la mission à remplir par ses disciples après son départ. Donc, c'est pour ça aussi qu'il interagit avec eux à cet égard-là. Ceux-ci se devaient de comprendre qu'il y aura toujours des personnes qui auront des opinions erronées sur Jésus. Ça va toujours exister. Mais l'important pour eux, c'est de maintenir une vision claire de qui est Jésus et une conception juste de leur propre identité et de leur engagement vis-à-vis Jésus. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on veut s'approcher encore de toi et de ta parole. Le récit qu'on a ce matin nous montre qui tu es. Et la répercussion que cela doit avoir dans nos vies et qu'elle a dans nos vies lorsque on comprend qui tu es vraiment. Et Seigneur, ce matin, c'est par ton esprit avec lequel on veut interagir. Que ce soit ton esprit qui puisse prendre ce texte et l'apporter à chacun de nos cœurs. Seigneur, encore ce matin, ce qu'on veut, c'est que c'est ta voix qui se fasse entendre. C'est qu'on puisse interagir avec qui tu es vraiment, selon ce que ta parole nous décrit de toi, et comment ton esprit peut interagir avec nous pour que ces vérités deviennent personnelles dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, ce matin, on ne veut pas entendre la tradition humaine. On ne veut pas entendre des commandements d'hommes. On n'a pas besoin de plus de règles. Seigneur, ce matin, c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que je peux te demander, Seigneur, ce matin, de faire entendre ta voix à chacune de tes brebis et à ceux qui sont ici? Et qui n'ont pas de réponse à leurs questions, et qui sont ici ce matin parce qu'ils veulent entendre ta voix. Est-ce que tu peux les rencontrer ce matin, toi? Parler à leur cœur, les inviter à toi et interagir avec eux, et que ton esprit fasse son œuvre dans le cœur de chacun. Nous voulons te voir, toi, Jésus. Et que nos cœurs puissent t'accueillir comme tu en es digne. Merci encore pour ta parole qui est précieuse et qui est une nourriture véritable à nos cœurs. À toi la gloire, Jésus. Amen. C'est dans Marc chapitre 8, les versets 27 à 38. Alors, ceux qui veulent suivre dans leur Bible ou leur Nouveau Testament, libre à vous. Je vais lire les versets 27 à 38. Alors, vous êtes invités à regarder avec moi ces versets. Le verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent, Jean-Baptiste, d'autres, Élie, D'autres encore, l'un des prophètes. Jésus dit, mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre, probablement enthousiaste, est toujours le premier à répondre dans ces questions-là, parle un peu comme ici au nom des 12. Pierre répondit, tu es le Christ. Voilà. Une seule phrase. Et là, Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Verset 31, il commença alors, et là pour la première fois, à leur dire ouvertement qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, et par les scribes, donc les leaders religieux de l'époque, les leaders du peuple juif, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent 3 jours après. Et là, ça dit, il leur disait ces paroles ouvertement. Alors ici, il n'utilise pas de paraboles, il n'utilise pas de langage figuré. C'est très simple, c'est sans détour et c'est clair à eux. Et c'est pour ça aussi que Jésus ne veut pas, en partie, qu'il parle de cela. Et aussi parce qu'il sait très bien la répercussion que ça va faire si il annonce ces choses aux autres. Maintenant, c'est intéressant, particulier un peu. Sans moi, j'aurais jamais fait ça. Pierre le prit à part. Jésus, viens ici. J'ai quelque chose à te dire. Quelqu'un, cette pierre-là, hein? En connaissez-vous des pierres? En tout cas, moi, je suis pas de même. Moi, j'aurais jamais fait ça. Jamais. Moi, j'ai jamais, jamais fait ça. Bonjour, mon nom, c'est Benoît Lavergne, et je suis un menteur. Oui, voilà, voilà, voilà. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Aïe, aïe, aïe. Vous avez jamais fait ça, hein? Verset 33. Mais Jésus se retourna et le regarda ses disciples. Vous vous souvenez, il était à part avec Pierre, là. Donc, ils étaient juste les deux ensemble. Et là, il se retourne, regarde les disciples. Et là, il a fit des reproches à Pierre. Il lui dit, pas par le dos de la cuillère, « Arrière de moi, Satan! » Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Pierre venait juste de dire quelque chose d'extraordinaire, tu es le Christ. Puis, pas longtemps après, on ne sait pas exactement le temps exact, mais on sait que c'est pas longtemps après, dans la même, on va dire, mettons, la même avant-midi ou la même après-midi, peu importe, il vient avec, boum, faire des reproches à Jésus. Puis là, Jésus dit, cette fois-ci, Pierre, là, t'as manqué ton coup, là. Hein? Puis pas à peu près. Verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples. Là, maintenant, il y a encore plus de monde. Et là, il leur dit ceci. Et là, ici, c'est la question que je crois. Maintenant, vous, qui êtes-vous? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, « Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, va la sauver. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier si, à la fin, il perd son âme? » Ça donne quoi? Rien. C'est absurde. « Et que donnerait un homme en échange de son âme ou en échange de son éternité? » En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Maintenant, le titre du message, c'est confesser le nom de Jésus. Pourquoi est-ce important de confesser le nom de Jésus? Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est que les gens, en général, et là ici, il y a les Juifs là-dedans, Et il y a même les non-juifs comme Hérode. On sait au chapitre 6 que Hérode pensait que Jésus était Jean-Baptiste qui était ressuscité parce qu'il avait fait décapiter la tête de Jean-Baptiste. C'est un peu particulier parce que les deux avaient existé en même temps. Ils sont nés quasiment en même temps. Et là, Jésus serait ressuscité, puis pourtant il existait en même temps que Jean-Baptiste. En tout cas, mais Hérode, c'était Hérode. Alors, il pensait que Jésus était Jean-Baptiste. Fait qu'on sait qu'il y avait des non-juifs aussi qui avaient une opinion de Jésus, parce que son ministère était quand même répandu dans toute la Galilée, et même à l'extérieur de la Galilée, comme on a vu il n'y a pas longtemps. Alors, certains disent Jean-Baptiste, Élie, et même Matthieu lui rajoute Jérémie. Matthieu, chapitre 16, verset 14, pour la même scène. Alors, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, ça, c'est mentionné. Maintenant, on sait que toutes ces perceptions-là de Jésus étaient erronées. Jésus n'est ni Jean-Baptiste, ni Élie, ni l'un des prophètes, incluant Jérémie. Elles reflètent l'opinion des gens en général qui étaient déjà mentionnés au chapitre 6, versets 14 et 15 de l'Évangile de Marc. Il n'y a pas de consensus sur l'identité précise de Jésus dans l'opinion publique. OK? Ce qui est intéressant, c'est que même si la foule est émerveillée par tout ce que Jésus fait, enseigne, ils sont surpris même de son autorité, malgré le fait qu'ils ont comme une espèce d'impression grandiose de Jésus, ils n'ont pas réussi à l'identifier correctement. Pourquoi? Moi, je pense que parce que le focus du cœur des gens n'était pas à la bonne place. Alors, les gens regardaient Jésus puis étaient impressionnés par ce qu'il était capable de faire et par la façon qu'il enseignait. Mais leur cœur n'était pas à la bonne place. C'est une des raisons. Mais je pense aussi que le texte, et surtout dans Matthieu, nous donne quelque chose d'un peu plus particulier que juste l'observation que les gens peuvent avoir du ministère de Jésus et leur faire une opinion. Et on sait ici une opinion qui était erronée. Maintenant, Pierre, lui, ce qu'il dit de Jésus, c'est « tu es le Christ ». Et Matthieu rajoute au chapitre 16, verset 16, « le Fils du Dieu vivant ». Alors donc, la déclaration de Pierre. Maintenant, était-ce une pure coïncidence que cette confession de Pierre sur la messianité de Jésus ait lieu pour la première fois dans une région appelée Césarée de Philippe? Cette région Césarée de Philippe avait été nommée en l'honneur de l'empereur romain et qui était pour affirmer que César était seigneur. Et je pense que dans le timing de Dieu, il a voulu que Pierre affirme cette déclaration sur Jésus, justement dans un endroit romain qui était comme connu pour dire « ici, c'est César qui règne et il est Seigneur ». Et Jésus vient et c'est lui, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Maintenant, ce qui est vraiment encore plus intéressant, et ça c'est Matthieu qui rajoute cet aspect-là au chapitre 16, verset 17. Jésus dit ceci, lorsqu'une fois que Pierre a dit qu'il était le Christ, dit ceci à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » qui te l'a révélé. Et là, c'est là où on voit que on ne peut pas connaître l'identité de Jésus à moins que le Père ne s'en mêle. Autrement dit, on peut arriver à avoir une opinion favorable de Jésus. On peut même reconnaître la beauté de son ministère, la beauté de sa personne, la beauté de son exemple et de ce qu'il a fait, mais sans arriver à le rencontrer en tant que Messie. Parce que c'est le Père qui doit le révéler. Maintenant, comment est-ce que le Père révèle cela à nos cœurs? Et même Jésus a dit une fois, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu a besoin d'interagir avec nous. Dieu doit intervenir pour qu'on puisse venir à lui. S'il n'intervient pas, on ne peut pas venir à lui. Un peu comme ce paraplégique ou paralytique qui était au bassin de Salomon et il attendait un miracle, espérant un miracle, qu'un ange vienne et bouge l'eau. Et là, s'il tombait à l'eau, là, il aurait été guéri. Alors, Jésus vient et lui dit une chose. Prends ton lit et marche. Comment est-ce qu'il peut faire ça? C'est de demander à quelqu'un l'impossible. Comment puis-je prendre mon lit et marcher? Je ne marche pas, je ne peux pas me déplacer à moins que quelqu'un m'emmène ici. Pourtant, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris son lit puis il a marché. Alors, c'est sûr que cet homme-là avait un cœur disposé. Il espérait rencontrer le miracle tant attendu. Et quand il a entendu Jésus lui dire ce qu'il lui a dit, son cœur s'est ouvert et il a simplement répondu à l'invitation. Moi, je pense qu'il y a un aspect très important que Jésus donne dans sa parole. Et Matthieu en parle longuement en disant aux gens, aux Juifs, aux foules, « Si vous ne redevenez comme un petit enfant, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Il y a un aspect absolument fondamental pour que Dieu interagisse avec nous, pour qu'on puisse être justement dans cette disposition de cœur. Un peu comme la femme grecque qui était venue à Jésus et qui a eu aucun problème à lui demander, « Jésus, peux-tu guérir? » Malgré la scène qu'on voit, qui aurait pu l'offusquer, elle n'est pas offusquée, elle accepte, elle s'humilie, elle ouvre son cœur, puis elle dit, « Seigneur, je vais me contenter des miettes. Donne-moi juste les miettes, puis je vais les prendre. C'est correct pour moi. » Son cœur s'est ouvert. Et Jésus a dit, « À cause de cette parole, va, ta fille est guérie. » J'aimerais lire ici un commentateur qui, je pense, fait justement une remarque qui est très pertinente ici par rapport à la confession que Pierre vient de faire. Dieu le Père avait ouvert les yeux de Pierre pour qu'il comprenne pleinement la portée des déclarations de son Fils. Il lui révéla pour la toute première fois qu'il était vraiment le Christ. Le Messie. En d'autres termes, Dieu venait d'ouvrir le cœur de Pierre à cette connaissance approfondie de Christ par la foi. La confession de Pierre ne fut pas une affirmation purement intellectuelle au sujet de l'identité de Christ, mais une confession personnelle de sa foi née dans un cœur régénéré par Dieu. Et là, c'est toute la différence entre savoir des choses dans ma tête et rencontrer Dieu dans mon cœur. Et là, ça, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur d'une personne. Et ça se fait par la foi. Il y a une disposition de cœur que Dieu fait pour une personne qui accepte de se mettre dans cette position d'humilité, de reconnaître sa totale dépendance et que sans Dieu, je ne peux pas y arriver, que j'ai besoin de Dieu, que Dieu doit venir vers moi et avoir pitié de moi. Et là, le miracle peut se passer dans le cœur d'une personne. Même dans Matthieu 16, 18, 19, on voit que l'Église véritable est construite et gardée jusqu'au temps de la fin. Sur la base d'une telle confession, et cette confession, c'est le roc. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. devient le roc sur lequel les pierres vivantes qui vont constituer l'Église véritable de Jésus-Christ vont être construites. Cette confession de foi, elle est absolument essentielle même pour faire partie de l'Église vivante, de devenir une pierre vivante, de reconnaître le Christ, pas d'une manière intellectuelle, mais là où mon cœur rencontre le Dieu vivant et vrai, et ce Jésus qui est le Fils du Dieu vivant. Mais il y a plus encore à découvrir sur Jésus. Et Jésus sait que c'est important qu'il puisse connaître et comprendre un autre aspect fondamental de sa venue sur la terre, ce qui s'appelle la passion du Christ. Vous voyez, la semaine passée, l'emphase a été mise sur justement comment Jésus voulait que ses disciples comprennent. C'était absolument essentiel qu'ils comprennent la vérité, qu'ils comprennent qui il était, qu'ils comprennent pourquoi il faisait qu'est-ce qu'il faisait. Et là, il sait comment c'est important maintenant qu'ils comprennent qu'est-ce qui s'en vient. Parce que le Messie, vous savez, pour les Juifs et même pour les apôtres, on sait qu'ils ont eu un débat. Et pour eux, là, ils s'en venaient régner. Ils s'en venaient prendre le pouvoir. Ils s'en venaient enfin mettre fin à l'esclavage et à cette nation romaine qui l'avait dominée et qui l'empêchait d'adorer son Dieu. Et ils pensaient que Jésus allait tout à coup rétablir le royaume terrestre et éliminer les Romains, et enfin Israël allait prendre sa place de gloire et pouvoir régner comme ça. Alors Jésus sait très bien qu'ils ne comprennent pas cet aspect-là, et là ici, il va emmener cet élément-là, où là il leur annonce qu'est-ce qui s'en vient pour lui. Et c'est là où il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. La déclaration de Pierre sur la messianité de Jésus et celle de Jésus sur sa passion marquent un point tournant ici dans le ministère de Jésus. Et c'est pour ça que c'est mentionné que c'est à partir de maintenant qu'il leur parla ouvertement. Il va se concentrer même de plus en plus sur ses disciples et passer plus de temps avec eux. Le désir de Jésus est que ses disciples comprennent son identité et sa mission, mais pas avec leur intelligence humaine, mais avec un cœur régénéré, alimenté par la révélation de Dieu, par l'œuvre de Dieu dans leur cœur. Vous savez, si ça ne se passe pas dans le cœur, si ça reste intellectuel, il n'y aura pas de répercussions dans ma vie, c'est impossible. Ça ne changera pas qui je suis. Ça ne m'emmènera pas à me définir, moi, en fonction de qui est Jésus. Et ça, Jésus le comprenait très bien. Parce que ça garde mon cœur fermé. Et un cœur fermé ne peut pas être régénéré. Un cœur fermé ne peut pas être régénéré. Maintenant, puisque les disciples ont compris par une révélation de Dieu que Jésus est le Messie, Jésus peut maintenant aborder la question de sa passion. Et il le fait avec clarté et insistance. Il va venir plusieurs fois même, ou il va revenir sur ce sujet-là plusieurs fois dans le chapitre 9 au verset 12, au verset 31 du chapitre 9, au chapitre 10, verset 33 à 34. Alors, il revient sur ce thème-là parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient et il sait, comme j'avais dit tantôt, l'impact que ce ministère-là va avoir sur ses disciples et sur la mission qu'ils vont avoir à faire. Maintenant, la réaction de Pierre. Pierre lui a fait des reproches et même Matthieu rajoute ceci au chapitre 16 de son évangile, au verset 22. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Imaginez-vous. Alors, Jésus dit clairement d'où ça vient, ça. Hein? dit clairement que ça vient des hommes, des pensées humaines. Et ce qui inspire ces pensées humaines derrière, c'est l'ennemi de Dieu, Satan. Vous savez, refuser la croix, s'y opposer, ou même s'en détourner, c'est se faire l'associé du diable et de jouer sa game à lui. Même s'il y a de la religiosité, le diable n'a pas de misère avec ça, vous savez. S'il y a de la tradition humaine, le diable n'a pas de misère avec ça. S'il y a des règles qui ont l'apparence de la piété, le diable n'a pas de misère avec ça. Le diable a de la misère avec une chose en particulier. Et c'est de vous voir à la croix. De vous voir les yeux sur la personne de Jésus, sachant que c'est lui que votre cœur a besoin. Vous n'avez pas besoin de performer pour impressionner Jésus. Vous n'avez pas besoin de travailler fort pour qu'il vous aime. Vous n'avez pas besoin de connaître plein de versets bibliques pour lui montrer que vous l'aimez. Que Jésus veut, et ce qu'il veut que ses disciples ici voient, c'est l'importance de la croix. Savoir que Jésus est le Messie, si ça ne m'emmène pas à la croix, je suis encore dans la religion, je suis encore dans l'effort humain, et ce que j'ai besoin, c'est que mon cœur puisse relaxer à la croix de Jésus, en comprenant que ce qu'il a fait, c'est ce que mon cœur avait besoin. Et que sans la croix, j'aurais beau faire tout ce que je peux et faire les efforts incroyables, si je ne suis pas à la croix, si ce n'est pas la croix qui est la motivation dans ma vie, je passe à côté. Je perds mon temps. Et même, je peux devenir dangereux. J'ai beaucoup de regrets. De ne pas avoir vécu dans la puissance de la croix pendant trop longtemps. Mais Jésus qui est compatissant sait que même avec la bonne volonté, peut s'égarer de la croix. Mais par sa grâce, il peut nous y ramener à la croix et comprendre que c'est lui qui est l'important. Et c'est lui qui doit avoir toute la place. Le désir de mon cœur, c'est de vous présenter Jésus, de vous emmener à Jésus. Il n'y a pas de plus grand privilège pour moi lorsque je peux conduire quelqu'un à Jésus. Amen. Il est vraiment merveilleux. Et tout ce qu'il fait est merveilleux. J'espère que Jésus est de plus en plus celui qui est présent dans vos vies et parmi nous dans cette Église, à tous les niveaux. C'est lui que nos cœurs ont besoin. Lui seul est capable de nous emmener au Père. Une admiration pour Jésus basée sur sa capacité à faire des miracles à nourrir des foules, à guérir des malades, à chasser des esprits mauvais, à enseigner avec autorité et à être un exemple à suivre est insuffisante et laisse les hommes dans les ténèbres de l'enfer. La foi qui sauve, c'est celle qui confesse de tout cœur que Jésus est le Messie. C'est lui qui a souffert beaucoup. Il a été rejeté, il a été mis à mort pour le pardon des péchés et il est ressuscité le troisième jour. Une telle confession aura besoin d'être validée pour démontrer son authenticité. Et c'est ce que Jésus enchaîne. Maintenant, Jésus va parler de l'importance d'être un vrai disciple. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ma définition d'un vrai chrétien. Ça vous dit quelque chose? Elle était bonne à part ça. Voilà. Quelqu'un qui est tombé en amour avec celui qui a donné sa vie pour lui, Jésus. C'est bon? Amen. Maintenant, Jésus, lui, va apporter une définition d'un vrai disciple au verset 34. Pour Jésus, un vrai disciple, voici ce qu'il en dit. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, Jésus annonce sa passion, qui est la croix, et là, maintenant, il va dire, un vrai disciple, lui aussi, va vivre la passion. On peut l'appeler la passion du disciple. Il y a la passion du Christ, qui était sa mort à la croix, ressuscité trois jours plus tard, et il y a maintenant aussi la passion du disciple, qui est un vrai disciple, et aussi celui qui va à la croix. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Là, je l'ai décortiqué un petit peu, et ça a donné ceci. La première chose qui revient, c'est tout le temps celle-ci. Si quelqu'un veut. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui veut. Il veut quelque chose. Et je vous dirais, un vrai disciple, il veut une seule chose. Laquelle? Venir après Jésus. Si quelqu'un, et là, n'importe qui, si quelqu'un veut venir après moi, un vrai disciple, la première chose qu'il veut, il veut venir après Jésus. Et il veut venir après Jésus en dépit du sacrifice à faire, qui est de renoncer à lui-même. Et ici, l'idée est simple. En fait, renoncer à lui-même, c'est de dire non à une vie centrée sur moi-même, où c'est moi qui est le Seigneur de ma vie. C'est moi qui est le César de mon univers. C'est moi qui dirige. C'est moi qui prends les décisions. C'est moi qui m'en vais avec ce que je veux accomplir ou acquérir dans la vie. Donc, la personne renonce à elle-même. Dire non. Se détourner de cette idolâtrie de dire « Je vais être assis sur le trône de ma vie. Je vais être au volant de ma vie. C'est moi qui va décider où je m'en vais. » Ça, c'est la première chose. Donc, quelqu'un qui veut venir après Jésus en dépit du sacrifice qui est de renoncer à soi-même. De dire non à ma propre vie. À mes propres ambitions, à la propre direction que je pourrais prendre de ma vie. Et c'est quelqu'un qui veut venir après Jésus, en dépit du sacrifice à faire de renoncer à lui-même, et ce, peu importe le coût qu'il devra payer, c'est-à-dire se charger de sa croix. Et ici, l'idée, c'est que le disciple, celui qui veut, venir après Jésus, accepte l'autorité de Jésus en se soumettant volontairement et complètement à la seigneurie de Jésus sur sa vie. C'est pour ça que l'idée derrière la croix, c'était la mort qui était là aussi. Ça, la passion du disciple, c'est d'accepter de mourir à moi-même. Et même littéralement, si nécessaire, de donner ma vie pour Jésus. Parce que je veux venir après lui. Et j'ai renoncé à moi-même. Et maintenant, je suis prête à lui donner ma vie. Jésus a le tout de mon cœur. Vous comprenez? Il a la pleine autorité sur mon cœur. Il est le Dieu central de ma vie. Et il termine en disant, c'est quelqu'un qui veut venir après lui, en dépit du sacrifice de renoncer à lui-même, et ce, peu importe que le coût à payer soit de se charger de sa croix, car le disciple poursuit un seul but. Lequel? À la fin du verset? Suivre Jésus. Vous voyez, il commence avec venir après lui, ensuite en expliquant qu'est-ce que ça veut dire au niveau pratique, où là, il y a une soumission totale à la personne de Jésus. Peu importe qu'est-ce que ça veut dire, peu importe le prix à payer, parce que le seul but d'un vrai disciple, c'est de suivre Jésus. C'est pas compliqué, hein? C'est vraiment pas compliqué. Et là, maintenant, je suis arrivé avec une définition d'un vrai disciple. Quelqu'un qui s'engage totalement à suivre totalement celui qui a totalement donner sa vie pour lui. C'est bon? Je la répète, OK? Écrivez-la, là. Prenez-la. Ça vaut à peine. Vous méditerez là-dessus. Quelqu'un, parce que Jésus dit ici, c'est quelqu'un qui s'engage, parce qu'il veut, totalement à suivre totalement celui qui a totalement donné sa vie pour lui. Ah, j'aime ça. C'est bon. Fait que là, j'ai réécrit ma définition d'un nouveau chrétien, d'un vrai chrétien. Parce que là, j'ai voulu tenir compte de ce qui était là. Donc, quelqu'un qui est totalement en amour avec celui qui a totalement donné sa vie pour lui. Hein, il y a quelque chose de plus, hein? Hein? Il n'y a pas de place pour rien d'autre. C'est totalement, total, complet, 100%. Amen. Alors, selon Jésus et face à la croix qui s'en vient, ce qui compte vraiment, c'est ceci, être un vrai disciple. Jésus explique pourquoi. Parce que être un vrai disciple, ça va sauver ta vie en la perdant, en acceptant de mourir, tu vas découvrir la vraie vie. Donc, tu vas sauver ta vie en la donnant pour Jésus. Deuxièmement, en étant un vrai disciple, tu vas sauver ton âme qui, elle, n'a pas de prix. Imaginez-vous, là, c'est de votre âme qu'il s'agit. Et Jésus sait que si vous êtes un vrai disciple, vous allez justement sauver votre âme qui n'a pas de prix. C'est Jésus qui la sauve naturellement. Mais par votre décision d'être un vrai disciple, quelqu'un qui veut, alors, vous allez sauver votre âme. Et finalement, Jésus dit, être un vrai disciple va apporter ceci. C'est qu'au jour de son retour, il va vous reconnaître comme étant l'un des siens. Vous n'aurez pas eu honte de lui. Vous savez, quelqu'un qui veut, comme Jésus parle ici, totalement suivre Jésus, totalement, n'aura pas honte de Jésus. Et Jésus va le reconnaître quand il va venir. Maintenant, j'ai un petit témoignage d'un exemple d'une personne que je crois qui va vraiment édifier vos cœurs, qui a fait ce choix-là d'être un vrai disciple, quelqu'un qui a accepté de totalement suivre Jésus parce que Jésus a donné totalement sa vie pour lui. Et ensuite, je vais revenir. Mais avant de le montrer, je voudrais juste vous donner un petit peu de qui il s'agit. Il s'appelle Nick, et là j'ai de la difficulté à prononcer son nom de famille parce que c'est assez particulier là. C'est, je crois, Vujicic, quelque chose comme ça. C'est un jeune Australien. Alors, on a découvert l'Australie, nous, depuis quelque temps. avec notre fille Émilie qui est là-bas, qui justement revient ce soir. Là. Alors, on a bien hâte de l'accueillir de retour. Mais ce jeune-là a un message puissant d'espoir qu'il communique à travers le monde depuis quelques années. Il a été élevé dans une famille chrétienne. Son père est pasteur en Australie. Et Nick, lui-même, qui est âgé à peu près de 25 ans présentement, est né 11 mois après que ses parents eurent implanté une nouvelle église. Wow, hein? Quel cadeau de Dieu! Pendant la majorité de son enfance, Nick haïssait venir à l'église, et particulièrement l'école du dimanche. Pourquoi? Parce qu'il entendait les histoires sur l'amour de Dieu. Et il ne comprenait pas pourquoi un Dieu d'amour avait pu permettre qu'une telle chose lui arrive. Il se souvient de certains soirs où, étant dans son lit, il a supplié Dieu avec larmes pour que Dieu fasse un miracle. Mais s'être réveillé le lendemain, déçu que rien ne se soit produit. C'est seulement vers l'âge de 15 ans qu'il a complètement donné sa vie à Christ, après avoir lu Jean 9, quand Jésus répondit aux disciples qui l'interrogeaient que la raison pour laquelle l'homme qui était né aveugle était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il dit, c'est à ce moment-là qu'il a décidé dans son cœur de faire totalement confiance à Jésus à travers ces circonstances dans lesquelles il était et qu'il est encore. Depuis, il a partagé son témoignage un peu partout à travers le monde, à peu près 24 pays présentement, et dans plusieurs endroits, comme des écoles, des églises, même des prisons, des chaînes de télévision, des stades avec des milliers de personnes qui étaient là pour l'écouter. Il a l'appellation suivante. On le présente pour définir qui il est, et vous allez voir comment lui se définit dans son témoignage, mais on le présente souvent dans les médias et un peu partout où il va, comme l'homme sans bras ni jambes. Et ça vaut vraiment la peine de regarder. C'est un petit vidéo de 8 minutes, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est en français. Il a été traduit en français. J'avais déjà présenté un petit bout de son témoignage. C'est un autre vidéo, c'est pas le même, mais en plus, il est en français, vous allez voir. Écoutez, parce que ça vaut vraiment la peine d'entendre ce qu'il a à dire. Voici Nick Vujicic, quelque chose comme ça.
Leur capacité. Leur talent. Ou simplement, leur sourire. Quand j'ai rencontré Nick Vujicic pour la première fois, j'ai su que je venais de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Dès l'instant où il a commencé à partager avec moi sa merveilleuse histoire, j'ai pu voir comment Dieu utilisait un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds.
Mon père disait qu'il était à côté de ma mère lorsque j'étais en train de naître, et il a vu mon épaule sortir. Il a pâli. Il espérait que ma mère n'avait pas vu parce qu'il a remarqué que je n'avais pas de bras droit. Il a dû quitter la pièce. Il ne pouvait croire ce qu'il avait vu. Le docteur est arrivé et mon père lui a dit « Mon fils, il n'a pas de bras droit. » Et le docteur a répondu « Non, il n'a pas de bras du tout, ni de jambes. » Mon père n'en croyait pas ses oreilles. À l'église, tous étaient dans le deuil disant « Pourquoi Dieu a permis que quelqu'un naisse ainsi ?» Au début, ma mère ne voulait même pas me porter, ni m'allaiter. Elle s'est sentie très mal à l'aise les premiers mois. Il a fallu à mes parents beaucoup de temps pour faire de nouveau confiance à Dieu, pour savoir qu'ils n'avaient pas commis une erreur, qu'ils ne nous avaient pas oubliés.
Les parents de Nick ont remis leur peur et leur déception face aux incapacités de leur fils entre les mains du Seigneur. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu et de croire qu'il avait un avenir et une espérance, que Dieu avait un plan pour lui. Mais alors que les années ont passé, Nick a fait face à de nombreux défis. Il avait du mal à faire confiance à un Dieu qui, selon lui, lui avait donné moins qu'aux autres.
J'ai défié Dieu en disant « Dieu, je sais que je suis pécheur et que je n'aurai probablement jamais la paix si je ne t'invite pas dans mon cœur. Mais je ne t'y inviterai pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes? Pourquoi ne m'as-tu pas donné tout ce que les autres ont? Et j'ai dit, Dieu, tant que tu ne m'auras pas répondu, je ne te servirai pas. Alors j'ai voulu tout arrêter. Si Dieu n'abrégeait pas mes souffrances, alors j'allais le faire moi-même. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, j'ai tenté de me noyer dans mon bain. J'ai dit à mes parents, je veux juste me relaxer un peu, pouvez-vous me mettre dans le bain? Je me suis retourné à deux reprises pour voir si j'allais aller jusqu'au bout. N'y suis pas arrivé. La pensée qui m'a empêché de le faire, c'était l'amour que j'avais pour mes parents. Je les aime tellement. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de m'aimer. Et j'ai pensé aux conséquences qu'aurait eu ma mort. J'ai imaginé mes funérailles. Je voyais que tout ce que ça apporterait serait un sentiment de culpabilité sur mes parents qui n'auraient rien pu faire de plus.
Ce serait la dernière fois que Nick penserait au suicide, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il devrait faire face aux difficultés qui l'ont poussé à avoir l'envie d'en finir avec ses souffrances. Un jour, la mère de Nick lui a fait lire un article sur un homme très sévèrement handicapé, et l'histoire de cet homme a eu un très grand impact sur la vie de Nick.
J'avais le choix, être en colère contre Dieu pour toutes les choses que je n'avais pas, ou bien être reconnaissant pour celles que j'avais. Ma mère m'a dit, Nick, Dieu va t'utiliser, je ne sais pas où ni comment, mais il va le faire. Et ces graines ont commencé à germer dans mon cœur. C'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'être complet de l'extérieur quand on était brisé de l'intérieur. Et j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. J'ai donné ma vie à Jésus en lisant Jean 9 quand j'avais 15 ans. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village, il était aveugle de naissance. Jésus l'a vu et les gens disaient, « Pourquoi cet homme est-il né ainsi ?» Jésus a répondu, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui m'a insufflé la vie et la foi. Cette foi est venue sur moi, cette paix est venue sur moi, et j'ai senti que Dieu avait répondu à ma question.
Quelle était la question et quelle était la réponse?
La question était pourquoi? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Et la réponse a été, me fais-tu confiance? Voilà la question. Et quand on répond oui à cette question, rien d'autre n'est important.
Mais pour vous en particulier, qu'est-ce qui vous a fait dire, Seigneur, je vais faire confiance à ta parole car elle a la vérité. Je vais te faire confiance même si je ne sais pas ce que tu me réserves pour demain.
Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Rien d'autre ne pouvait me donner la paix. Je savais que des jambes et des bras seuls ne pouvaient me donner la paix. Je savais que je connaissais la vérité. Qui j'étais, pourquoi j'étais là, où je vais, où je ne vais pas. Et je n'ai pas trouvé cette vérité ailleurs qu'en Jésus-Christ.
Et c'est en Jésus-Christ que Nick a puisé la force pour faire ce que beaucoup pensaient impossible.
C'est dur d'être fort quand des gens vous disent constamment « Tu n'es pas assez bien, va-t'en, on ne veut rien avoir à faire avec toi. Nick, tu n'es personne, Nick, tu ne peux pas faire ceci ou cela, Nick. » Dans la vie, si tu ne sais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que tu crois que les mensonges sont la vérité. Mais on réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné mes péchés. Je suis ambassadeur du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant. Je ne suis rien. Mais Dieu, en revanche, vit en moi, et maintenant je vis dans sa force. Tout ce que Jésus conquit, je le conquis aussi. Je crois que si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes le miracle pour le salut d'autres personnes. Et je remercie Dieu de ne pas avoir répondu à ma prière, quand je le suppliais à l'âge de 8 ans de me donner des bras et des jambes. Parce que, devinez quoi ? Du fait que je n'ai ni bras ni jambes, Dieu m'utilise partout dans le monde. Et ces 6 ou 7 dernières années, nous avons vu approximativement 200 000 âmes se tourner vers Jésus-Christ pour la première fois. Nick, préférerais-tu avoir des bras et des jambes ici sur Terre? Non, c'est selon la volonté de Dieu. Parce que je préfère ne pas avoir temporairement de bras et de jambes ici sur Terre et pouvoir gagner quelqu'un pour Jésus-Christ et passer l'éternité avec eux.
Ces 10 dernières années, Nick a partagé son histoire dans 24 pays et a atteint plus de 3 millions de personnes. Qu'il parle dans un stade bondé de monde ou à une personne en particulier, son cœur derrière le message est le même.
Dieu vous aime. Il n'a pas oublié votre souffrance. Il n'a pas oublié votre famille. Et peut-être qu'en regardant cette interview, vous avez comparé votre souffrance à la mienne. Mais l'espoir n'est pas dans le fait de savoir que, selon votre opinion, quelqu'un est plus malheureux que vous. L'espoir n'est pas là, mais l'espoir est dans le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'espoir est de comparer votre souffrance à l'amour incommensurable et la grâce infinie de Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. » Je n'avais pas besoin que mes circonstances changent. Je n'avais pas besoin de bras et de jambes. J'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole, parce que je sais que Jésus me tient debout. N'abandonnez pas Dieu, car lui ne vous abandonnera jamais.
Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné de mes péchés. Je suis ambassadeur du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Est-ce que votre identité est attachée à celle de Jésus? Seriez-vous capable de vivre une vie heureuse et pleine sans la présence de Jésus en vous et à vos côtés? Pourriez-vous vivre pleinement sans lui? Lorsque vos pensées, vos raisonnements, vos valeurs, vos paroles, vos émotions, vos désirs, vos actions et même vos questions sans réponse sont imprégnées de Jésus, c'est que votre identité sera définie par celle de Jésus. Vous serez alors un disciple de Jésus. Votre identité sera indissociable de la sienne. Vous ne pourrez plus vivre sans lui. Impossible. Le reste n'aura plus aucune importance. Aucune importance. Si ce n'est que de glorifier son nom. Votre cœur chantera alors cette chanson interprétée par Jérémie Kemp. Donnez-moi Jésus. Le matin, quand je me lève, oh, donnez-moi Jésus. Vous pouvez avoir le monde entier, si vous le voulez, mais moi, donnez-moi seulement Jésus. Quand je suis seul, quand je me sens seul, ah, donnez-moi Jésus. Quand je mourrai, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous pouvez avoir le monde entier si vous le voulez, mais moi, donnez-moi seulement Jésus. On va prier ensemble. Je vais inviter l'équipe de louanges aussi à venir pour terminer. Seigneur Jésus, on veut s'approcher devant toi ce matin. Seigneur, on veut venir à toi ce matin. Comment il est, mon cœur ce matin, Jésus? Est-ce que c'est les circonstances de ma vie qui troublent mon cœur, qui m'emmènent à te faire des reproches? À questionner ta bonté, à remettre en question si je devrais te suivre ou non. Est-ce que la douleur est à un tel point que je pense que tu en es le responsable? Que si seulement tu avais voulu faire quelque chose, mes circonstances seraient tellement meilleures? Et j'ai de la misère. J'ai de la misère à venir à toi, Jésus, ce matin. Il y a bien des choses que je ne comprends pas. Est-ce que tu vois mon cœur ce matin, Jésus? J'aimerais vouloir. J'aimerais venir à toi. J'aimerais remettre tout entre tes mains. Est-ce que tu peux venir m'aider? Est-ce que tu peux venir vers moi? Peux-tu venir vers mon cœur? Que je puisse te faire confiance et remettre ma vie entre tes mains. Je voudrais être un vrai disciple, Jésus. Ce genre de disciple que tu parlais ce matin. Renoncer à moi-même. Me charger de ma croix, te donner toute ma vie. Parce que j'ai un seul désir dans mon cœur, c'est te suivre, te connaître. Et te faire connaître aux autres. Parce que tu as changé ma vie. Parce que tu es réel dans ma vie, dans mes circonstances. Et tu fais toute la différence. Est-ce que tu peux entendre ma prière, Jésus, ce matin? Viens vers moi, Seigneur. Merci de m'aimer autant. Et merci de m'inviter ce matin à venir vers toi.